Bonjour à toutes et à tous, ici Louis Prouer-Dubois, je suis en compagnie de Vincent Lefort, producteur de clairette bio, administrateur du syndicat de la clairette, Harold David, directeur du festival Est-Ouest et du théâtre de Die. Deux journalistes sont aussi avec nous, Sylvaine Laborde du Petit Diois et enfin Yves Glorian qui est récemment promu comme correspondant local du Dauphiné Libéré. Quatre personnes qui sont ici présentes pour nous accompagner, pour présenter un festival qui aura lieu du 11 au 13 mai 2012, qui va remplacer le Festival de la Clairette. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Qu'est-ce que le festival Les Espègleries et pourquoi va-t-il remplacer le Festival de la Clairette?
Je vais commencer alors, puisque je suis donc là pour le syndicat. Donc voilà, tous les gens du Diois savent que depuis pas mal d'années, il y avait une fête de la clairette qui se tenait en général au tout début septembre, qui ensuite un petit peu grandi, qu'on a appelé festival, mais qui était quand même sur une seule journée. Et les dernières éditions avaient lieu dans des villages, soit vers Chenille, Saillant pour les dernières en tout cas. À la suite d'un séminaire, voilà, au syndicat, on fait des séminaires aussi, les paysans de temps en temps, pour réfléchir ensemble sur l'avenir, on s'est dit que on avait vraiment envie de reprendre ce sujet avec en lui donnant une perspective plus large, en étant plus ambitieux, on peut dire, et en faisant un véritable événement orienté vers une programmation culturelle, artistique, ce qui n'était pas exactement le cas avant, de façon à ce que on puisse, puisque c'était quand même le but au départ, avoir en fait une sorte d'activité de mécénat, c'est-à-dire de en produisant des spectacles, de faire venir un public qui venait pas auparavant, un public peut-être un peu plus lointain que strictement local. Ça a été ça la motivation au départ. À la suite de ça, on s'est dit qu'on pouvait évidemment pas le faire tout seul et que on avait envie d'y mettre un budget assez conséquent, donc on n'avait pas le droit à l'erreur. Tout ça nous a amené, le petit groupe qui s'occupait de cette réflexion, à se tourner vers Harold et l'association Est-Ouest, parce que ça nous semblait des gens qui avaient fait leurs preuves et avec qui on avait envie d'engager la réflexion.
Pourquoi justement un festival plus ambitieux que la traditionnelle fête de la clairette?
Parce qu'on s'est dit que c'était... Enfin, cette occasion-là était peut-être la meilleure manière de communiquer à la fois sur notre produit et sur notre pays, parce que les deux sont tellement liés, à la fois pour nous producteurs, parce que évidemment c'est une appellation contrôlée, donc c'est forcément ici que ça se fabrique, et aussi parce qu'on est très attaché au Diois et très bien réparti dans toute la vallée, et donc le moyen de vraiment mettre en avant cette idée là c'est que des gens viennent dans notre pays à la fois pour déguster et aussi pour découvrir, que les gens viennent de plus loin en fait, de Lyon, de Grenoble, peut-être même de Paris, on ne sait pas.
Avant, la fête de la clairette n'avait lieu que sur une journée.
Elle avait lieu que sur une journée, elle avait bien sûr un budget beaucoup plus petit, donc pas beaucoup de programmation. C'était essentiellement une dégustation des différents produits qui va toujours avoir lieu dans le prochain programme. Mais ça n'avait pas la même ampleur. On ne peut pas faire venir des gens uniquement pour goûter de la clairette. On a pensé qu'il fallait qu'à l'occasion de propositions plus riches, à cette occasion-là, ils dégusteraient la clairette, évidemment. Mais ils venaient avant tout pour voir notre région et écouter les concerts qu'on leur proposerait.
Ça date de quand, en fait, cette réflexion ?
Il y a un an.
D'accord.
Il y a un an. Donc on a renoncé à faire l'édition 2011, justement parce qu'on remettait tout à plat et qu'il fallait trouver des collaborations, dégager du budget. Donc on a sauté une année et on a décidé de la faire au mois de mai parce que c'était une date qui nous semblait plus intéressante pour faire venir des gens, pour ouvrir la saison touristique. Et c'était un moment où les vignerons sont juste avant le grand rush de travail. Donc c'est un moment un peu excitant pour tout le monde.
On va parler de la programmation dans un moment, mais est-ce que vous avez un peu suggéré au Festival Est-Ouest la teneur, l'ambiance de ce que ça pourrait être, ou est-ce que c'est le Festival Est-Ouest qui a proposé justement que ce soir, bon, on va en parler tout de suite, là, un festival d'humour musical?
L'idée vient du Festival Est-Ouest. Disons qu'on a travaillé ensemble un peu, en discutant un peu à bâton rompu sur ce qu'on avait envie de faire et quelles étaient les valeurs ou les images qu'on voulait attacher à notre produit. On a parlé de fête parce que la Clairette, c'est quand même un vin qui se boit à cette occasion-là, de légèreté, d'élégance, de voilà, tout un tas d'idées un peu que nous, qu'on a envie de faire passer en même temps que notre produit. Et du coup, ben voilà, Harold a réfléchi avec ça et a fait une proposition.
Alors c'est peut-être venu le moment de parler de vos choix.
Oui, c'est une bonne transition.
Pourquoi donc un festival d'humour musical au pays alors ?
Parce que donc, comme l'a expliqué Vincent, il y a eu l'établissement d'une sorte de cahier des charges en fait de la part du syndicat pour cet événement, de telle sorte que dans sa conception et dans sa mise en œuvre, en fait, il puisse répondre à un certain nombre d'objectifs. Et ça, je tiens à le souligner, enfin, je le redis à chaque occasion, qui est tout à l'honneur, si je puis dire, du syndicat d'avoir été dans cette démarche, qui est de se dire que pour promotionner un produit qui a vocation à être commercialisé, hein, parce que c'est pas de. Même si on parle de mécénat pour l'organisation de la fête, l'objectif du syndicat, je crois qu'on peut le dire de manière assez claire, et de communiquer, enfin c'est une opération de communication sur la Clairette avec à terme le souci de retomber sur des ventes de Clairette par un accroissement de la notoriété du produit. Donc ça, c'était un élément que nous, il fallait qu'on prenne bien en compte. Il y avait aussi le souci du syndicat d'être sur non pas une valorisation du produit en tant que tel, mais effectivement du terroir, du pays qui produit la Clairette. Et ça, ça nous intéressait tout particulièrement comme approche au niveau de l'association, parce que si nous avait été demandé d'organiser je dirais une foire au vin, pour faire les choses de manière un peu courte, c'est pas trop notre métier pour le coup, quoi. Enfin, faire de l'événementiel, oui, avec le festival Est-Ouest ou d'autres choses qu'on fait au niveau du théâtre, on sait mettre en place de l'événementiel, mais voilà, si il s'agit d'une foire purement commerciale, je suis pas sûr qu'on aurait été aussi enthousiaste face à la proposition et la sollicitation du syndicat. Mais effectivement, là, il s'agissait d'autre chose, c'est-à-dire de festivals à caractère culturel, dont dans les entrées qu'on allait pouvoir proposer, enfin dans les ingrédients qui allaient pouvoir composer la programmation et l'ensemble de l'offre faite au travers du festival, on soit sur une mise en écho de la Clairette, quoi, qu'effectivement le public puisse croiser la Clairette et son esprit, donc résumé comme l'a fait Vincent, pétillance, légèreté, joie, bonne humeur, fête, etc., etc. Pour répondre à la question pourquoi l'humour musical, l'idée c'était effectivement de trouver une thématique qui puisse répondre à cet esprit-là. Et en même temps, d'envisager le positionnement du festival au niveau de la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire de trouver un créneau sur lequel il n'y a pas déjà 25 festivals qui sont déjà sur le sujet. À partir du moment où c'était plus le festival de la Clairette, mais un festival thématique, culturel au pays de la Clairette, on était obligé d'envisager en termes de stratégie de positionnement sur l'échiquier, je dirais, des différentes propositions, enfin manifestations culturelles qui existent déjà en Rhône-Alpes. Or, sur l'humour musical, il n'y en a pas. Il y a des festivals d'humour, mais qui vont sur des programmations de type one-man show, enfin ce genre de choses. Mais en humour musical, il n'y a pas. Donc, il nous a semblé qu'il y avait un créneau intéressant à prendre et à occuper pour ce festival-là. Et que dans la mesure où, effectivement, cette thématique répondait à l'esprit Clairette, du coup, on est parti sur cette proposition. Ce qui, en termes de programmation, avait aussi l'avantage de répondre à un autre critère du cahier des charges, qui était, dans la demande du syndicat, d'être sur un événement qui soit populaire, au sens noble du terme, qui puisse être aussi familial, donc vraiment concerner tous les publics, de tout petit jusqu'aux plus âgés. Du coup, d'avoir une entrée disciplinaire ouverte, et l'humour musical permet ça, dans la mesure où sous cette thématique d'humour musical, on peut aussi bien programmer de la chanson, que du théâtre musical, que de l'opérette, que du cirque musical, que, enfin bref, voilà, il y avait vraiment plein de genres possibles qui permettaient d'avoir une programmation éclectique mais cohérente autour de cette thématique de l'humour musical. Du coup, ça nous a permis de donner naissance à la future programmation, enfin qui est actée puisqu'on a signé des contrats, etc. Donc on n'en parle pas au conditionnel. Ce sont des artistes que je vais citer sont des artistes qui vont être présents dans quelques mois à Die. sachant que dans le cahier des charges du syndicat, il y avait aussi évidemment le fait de pouvoir programmer des gens, des artistes dont la notoriété avait un caractère national, puisque pour pouvoir attirer du monde de loin, faut aussi avoir des têtes d'affiche qui, par leur notoriété, vont aussi donner envie aux gens de faire des kilomètres pour venir jusqu'à Die et qu'on puisse avoir une attractivité du coup sur le festival aussi par ce biais-là. Donc concrètement, il y a trois spectacles en soirée qui vont être programmés le vendredi 11 mai, le samedi 12 et le dimanche 13, qui sont tout d'abord San Severino. Donc je ne sais pas s'il faut le présenter. Enfin, je pense qu'il est quand même bien identifié dans le paysage musical français, qui va donc proposer sa nouvelle version de concert en duo acoustique, donc one man band duo, voilà, où on est dans le style musique manouche à caractère humoristique.
Oui. Alors si c'est un one man duo, oui. Ça veut dire que ça va être il va être accompagné par quoi, par un autre guitariste? Alors ça va pas être forcément dansant peut-être?
Alors c'est pas forcément le concert effectivement dansant tel qu'on peut l'attendre par rapport à San Severino, dans le sens où effectivement c'est une formation acoustique et il va être avec une contrebasse en fait pour donner de la rythmique, sachant que néanmoins le principe du one man band, enfin c'est ce qu'il explique et ce que j'ai vu d'ailleurs sur scène, c'est qu'il joue plusieurs instruments. Alors, il fait de la batterie, il fait de la guitare, il y a un côté multi-instrumentiste qui fait partie de son projet artistique, en tout cas sur ce concept de concert-là.
Et en plus, il est drôle.
Et en plus, il est drôle, oui. Bah, ses textes sont vraiment, vraiment drôles. Enfin, on n'est pas dans de l'humour forcément à se taper sur les cuisses, mais où il y a cette dimension qui a complètement à voir avec notre sujet, quoi, d'humour musical. Voilà. Même si son univers, évidemment, va bien au-delà de cette seule catégorisation d'humour musical. Donc on a ça pour le vendredi soir. Pour le samedi soir, on a une artiste qui est un peu moins connue, peut-être du grand public, mais qui a une très très belle carrière derrière elle, qui s'appelle Fabienne Guyon, qui va présenter un spectacle qui s'appelle Evian à nous trois, qui met en avant le répertoire de Boris Vian, où là aussi on est dans des choses légères et drôles, parce que le spectacle est vraiment très très drôle. C'est quelqu'un qui a travaillé avec de grands artistes comme Michel Legrand, Jacques Demy, qui a une grosse carrière en comédie musicale notamment, qui avait créé par exemple le personnage de Cosette dans la comédie musicale Les Misérables, quand ça avait été créé pour la première fois en France, qui a été nominé plusieurs fois aux Victoires de la musique, au César, etc., qui est vraiment une artiste de grande, grande qualité. Donc là, avec un répertoire chanson française, avec un auteur connu, dont on a célébré d'ailleurs récemment la disparition, avec une formation contrebasse et multi-instrumentiste, percussion et saxophone. Et ça donne un spectacle qui revisite complètement l'univers de Boris Vian, et en même temps, avec des arrangements, une réorchestration des musiques originales qui les rendent tout à fait contemporaine, enfin au sens musique d'aujourd'hui, et vraiment c'est un spectacle très 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 chouette qui fait une belle carrière déjà. Et puis on terminera le dimanche soir avec je dirais peut-être le groupe ou l'ensemble le plus emblématique jour d'aujourd'hui sur la scène française de l'humour musical, qui est le Quatuor, donc qui existe depuis maintenant une 30 ans, qui réunit 4 musiciens qui viennent de l'univers de la musique classique et qui, depuis 30 ans, les artistes les plus reconnus dans le genre de l'humour musical, dans le sens où, à partir d'airs de musique classique écrits pour un quatuor à cordes, sont dans un détournement, une dérision et la mise en place de sketchs, en quelque sorte, musicaux et humoristiques, qui leur ont valu un succès qui fait que leurs tournées sont pleines partout depuis de très nombreuses années, et qui en plus, je ne le savais pas, mais quand on a été présenté le Festival des Espiègleries à la presse parisienne au mois de janvier, on avait profité du fait que justement le Quatuor était à l'affiche au Théâtre de Paris à ce moment-là pour organiser une présentation de presse, et en discutant donc avec les gens du Quatuor, on s'est rendu compte qu'ils avaient une longue histoire avec le Di et le Diwa, et c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs tout à fait ravis de revenir dans le Diwa, puisqu'ils ont participé, alors il y a pas mal d'années de cela, presque presque 25-30 ans, si voilà, ce qui va nous rajeunir, mais notamment à la, enfin ils ont collaboré à la Chiffonie Théâtre, et donc ils ont fait déjà des pas mal de tournées dans le Divois à l'époque. Ils sont des anciens du Divois, si je puis dire. Voilà, donc ça c'est pour la partie programmation spectacle payant proposée tous les soirs.
D'accord, mais j'ai vu qu'il y avait effectivement d'autres propositions qui avaient lieu en cours de journée.
Oui, tout à fait. L'idée, c'était à partir du moment où on était sur 3 jours, qu'on ait effectivement un programme qui fasse que les gens aient envie de venir pour le week-end et puis qu'il se passe tout le temps des choses. Donc, en termes de programmation de spectacle, il y a des choses qui vont être proposées dans la ville de Die. Donc, on va programmer le Cirque Hirsute avec sa dernière création qui s'appelle le Blues de la Mancha, qui est une relecture, on va dire, de la figure de Don Quichotte sur la place Jules Plan, là, que je... par la fenêtre même. Voilà, et donc où ils vont installer une sorte de moulin à vent géant qui leur sert d'accessoire pour faire des numéros de cirque. C'est aussi chanté, il y a beaucoup d'humour dans le spectacle, ça c'est leur dernière création. Ce sera proposé gratuitement pour le tout public, celui-là. Et puis également, on a un certain nombre d'animations qui vont être dans ce qu'on appelle la programmation cabaret, c'est-à-dire d'après spectacle, d'après les concerts là, que j'ai évoqués, les trois, dont on est en train un petit peu de finaliser la programmation, mais avec des artistes qui vont prolonger la fête j'espère jusque tard dans la nuit. Et puis également ces mêmes artistes qui vont participer au cabaret vont intervenir dans les déjeuners et dîners qui vont être proposés sur le site du festival, parce qu'on en dira 3 mots sur le site du festival après. Ils vont faire en sorte que justement les temps de repas sur le site du village soient animés musicalement, toujours dans ce registre de l'humour musical. Donc on a des artistes qui vont être plus dans l'opéra, de plus dans la chanson, enfin voilà, il y a une programmation qui est en train de se finaliser de ce côté-là. Et puis également, dans le souci, pour le coup, de faire découvrir le métier des vignerons et puis la richesse des terroirs, finalement, de production de la Clairette, on a mis en place 4 promenades découvertes, un peu genre sur la route des caves, on pourrait appeler ça comme ça, le samedi et le dimanche après-midi, qui vont emmener les gens soit du côté d'Espenel, soit de Vercheny, soit de Châtillon-Diois ou encore de Barsac, avec des thèmes à chaque fois propres à chacune de ces promenades, où donc les gens vont pouvoir partir en bus toute une après-midi, être accueillis par les vignerons, visiter les caves, visiter les vignobles. Et à chaque fois, il y aura aussi des animations musicales qui seront proposées in situ, et puis bien entendu, déguster de la clairette directement dans les caves. Voilà en gros au niveau artistique, et sachant qu'en dehors de ça, le programme s'enrichit en fait chaque semaine, on va dire, de plus en plus. Dans la mesure où, au fur et à mesure que le projet est connu, on a des propositions qui nous viennent et qui viennent du coup enrichir le programme, donc des collaborations nouvelles. On a par exemple danseurs amateurs qui nous ont proposé de faire des interventions qu'on va programmer le dimanche 13 mai au matin, qui viennent d'Aoust sur Scie. On a également le musée de Die qui nous a proposé de mettre en place des visites thématiques autour du vin et de l'histoire de la clairette au musée. On a également la confrérie de la Clairette qui évidemment souhaitait être partie prenante, donc qui va participer à différentes animations. On a la commune libre de Saint-Marcel aussi qui va proposer des choses autour de la place Saint-Marcel, de la fontaine Saint-Marcel qui va se transformer en fontaine à vin. On va y célébrer le baptême de la cuvée unique qui va être créée justement à cette occasion. On a la fanfare des Côtes du Divois qui va aussi intervenir sur différentes choses. On va voir d'ailleurs, en parlant de fanfare, voir le samedi matin une autre fanfare là, qui cette fois et professionnelle, qui s'appelle la Rhino Fanfaringite, qui va venir traverser Die pendant le marché, auquel se rajoutent aussi des propositions qui nous viennent de commerçants. Enfin, par exemple, j'ai eu aujourd'hui la pâtisserie La Tentation Les Tentations de Fées, voilà, qui est rue Camille Buffardel, qui s'est proposé de faire une création de macarons à la clairette pour l'événement. Enfin voilà, il y a plein de choses qui naissent finalement à partir de ce projet. Sachant que pour terminer, il y a un autre élément très important de la programmation qu'il a à voir pour le coup directement avec la clairette en tant que telle, qui est que moi je souhaitais, et on est assez vite tombé d'accord là-dessus avec le syndicat, qu'on garde la dimension de dégustation. Donc il y a un village des vignerons où l'ensemble des producteurs volontaires et adhérents adhérents au syndicat de la Clairette puissent venir présenter leur production. Et du coup, ça me permet de parler un petit peu du site du festival, qui va donc être sur 10, puisqu'il y avait cette volonté aussi de ramener cet événement autour de la Clairette sur 10 intramuros. Donc on va en fait investir, en dehors de certaines places de la ville, complètement l'aire de Méros, donc devant l'office de tourisme, avec d'une part donc un chapiteau spectacle de 600 places qui va permettre d'accueillir San Severino, l'Équateur, etc. Et ce qu'on a appelé le village des vignerons, qui va à la fois accueillir un chapiteau qui va servir pour la restauration, le bar et la partie de programmation cabaret. Il y aura également donc une trentaine de tentes qui seront aussi mises en place tout autour de ce chapiteau, de manière village, avec le centre et puis autour, voilà, tous les exposants qui seront présents, à la fois des exposants producteurs de clairette, mais aussi de produits du terroir. Donc là, il y en a différents, enfin des escargots, du canard et autres. Tout ça va prendre place sur le parking de l'aire de Méros. Et donc dans ce village, il va se passer plein de choses aussi. Voilà, en dehors de la programmation spectacle en tant que telle que j'ai évoquée il y a quelques instants, il va se passer beaucoup de choses. Des espaces d'ateliers, on va mettre en place des ateliers d'écriture autour de l'imaginaire du vin, des ateliers de cocktails à base de clairette avec un partenariat avec l'école, le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, donc des futurs barmen qui vont donc animer ces ateliers à la fois pour les adultes et pour les enfants. Il y aura des espaces d'exposition avec le musée de Die qui va nous prêter des pièces qui vont sortir des réserves du musée. On a demandé aux producteurs justement de clairette de fouiller un peu dans leur trésor de famille pour voir s'ils n'avaient pas des choses qui pourraient être exposées. Il y a du matériel agricole aussi qui va être exposé. Il y aura aussi un espace librairie qu'on fait en partenariat avec la librairie Mosaïque, qui va présenter différents ouvrages sur le vin, sur le pays d'Ivoire, sur le terroir, etc., qui sont donc aussi à la vente pour le public. Et une grosse programmation en direction des enfants, j'en aurai terminé après, parce que encore une fois, vraiment, il y a le souci de faire de cet événement, de donner une dimension vraiment familiale. Donc on va avoir un gros espace de jeux proposé aux enfants, notamment avec un partenariat qu'on est en train de mettre en place avec Archijeux à Cray, qui va mettre à disposition une trentaine de jeux de plein air ou de bois, etc. Et donc il y aura un animateur aussi qui sera là pendant tout le week-end pour animer ces jeux. Et également, on a mis en place une collaboration avec Champêtre de Joie, voilà, qui sont à Aurel et qui développent notamment dans le cadre de jours de foire, qui ont mis en place en fait des jeux participatifs pour tous les publics, d'ailleurs pas seulement les enfants, qui vont aussi être là pendant le week-end et proposer ces jeux. Il y aura aussi du conte autour, pareil, de l'imaginaire, du vin, etc. Il y aura un marché artisanal aussi qui va se mettre en place dans la rue des Jardins, donc l'idée, c'est vraiment que les gens puissent, enfin le public puisse décider de venir passer véritablement un week-end dans le Diwa pour découvrir la Clairette, le pays de la Clairette, et passer du bon temps, quoi, tout simplement, prendre du plaisir. Je dirais que la Clairette est tellement liée à l'identité de Die et du pays d'Iwa, qu'il y a une force d'adhésion, enfin un mouvement d'adhésion de la part de plein de gens avec qui on ne travaillait pas forcément auparavant sur nos autres activités qui se manifestent, plein de bonnes volontés aussi qui sont mises en avant, et du coup je suis très heureux de travailler sur ce projet, parce qu'au-delà de ce qu'il nous apporte en tant qu'organisateur pour le compte du syndicat, a une force de fédération finalement de plein d'acteurs très très différents, aussi bien du monde économique, du monde culturel, du monde associatif, qui est très porteur, je trouve, pour le développement du territoire de manière générale.
En t'entendant, Harold, on comprend effectivement ce que ambition veut dire. Hein. Vincent, tu parlais d'ambition tout à l'heure. Alors, je suppose que le syndicat de la Clairette, qui est donc commanditaire de cette manifestation, a un budget digne de ce nom pour financer tout cela. On peut peut-être parler du budget et puis peut-être aussi des bénévoles, parce que pour toutes ces activités qui sont prévues, il faudra peut-être des petites mains pour organiser tout cela. Est-ce que les participants du syndicat de la Clairette sont prêts à remonter leurs manches pour donner un petit coup de main à cette occasion ?
Pour répondre à ça, je peux un petit peu revenir sur la fonction du syndicat. En fait, le syndicat, c'est l'association de tous les producteurs de clairette et de vin du Diwa. Donc, il y a aussi les Châtillons, le Crémant, bien sûr, enfin tout ce qu'on produit ici. et Couteau de Die. Et donc, en fait, il y a des gens qui sont en cave particulière, il y a des gens qui apportent au négoce, il y a des adhérents de la cave de Die, la cave Jaillance. Et tous ces gens-là travaillent ensemble depuis longtemps, hein, puisque le rôle du syndicat, en fait, c'est une association professionnelle qui est là pour d'abord pour faire respecter les décrets, c'est-à-dire les règles que la profession s'est fixées pour produire les vins de la qualité souhaitée, hein, donc sur des territoires définis, etc. C'est ça ce qu'on appelle une AOP. Et ensuite, de défendre les producteurs quand ils ont des problèmes, quels qu'ils soient, de rendement, de conditions climatiques, de règlement, etc. Et un troisième élément, c'est qui lui est facultatif, c'est ce qu'on appelle le côté promotionnel, c'est-à-dire mettre en avant les produits et essayer de faire connaître. Voilà. Et cette activité-là, donc, n'est pas obligatoire, la cotisation n'est pas obligatoire, et c'est une cotisation qui est prélevée auprès de chaque producteur. Et donc, le budget, pratiquement la quasi-totalité du budget promotionnel du syndicat, on a décidé de la consacrer à l'organisation des espiègleries. C'est-à-dire que c'est un gros, gros engagement pour nous. Là, on a mis à peu près 100 000 euros. Hein, pour cette fête, on avait... Comme on n'a pas fait l'édition de l'année dernière, on a un petit peu capitalisé sur les deux années. Mais on a quand même le but très, très clair de le faire de façon annuelle. Donc ça veut dire que dans l'avenir, il faudra peut-être que les producteurs acceptent une cotisation un petit peu plus grande pour pouvoir réaliser ça tous les ans. Ça, ça veut dire que c'est les producteurs, tous les producteurs, quels qu'ils soient, qui payent ça de leur poche. Hein. Voilà, ça c'est important de le dire. Du coup, bien sûr, comme dans toute société humaine, y a beaucoup de gens qui sont super enthousiastes et puis quelques autres qui peut-être aideront pas ou pourront pas. Mais oui, je pense que les gens vont venir, oui, ils vont venir aider.
Voilà, parce que oui, il y a le genre de... Enfin, je ne sais pas quels sont vos moyens humains au Festival Est-Ouest, mais enfin, quand je vois tout ce que vous proposez, il faudra de la coordination là-dedans. Donc,
Oui, c'est ça.
Je suppose qu'il faudra qu'il y ait des gens, des petites mains, comme on dit, quoi.
Ça a toujours fonctionné comme ça les années précédentes. Hein. Il y avait quand même beaucoup de gens qui se mobilisaient. Et au-delà des producteurs eux-mêmes, des amis, effectivement...
Oui, je crois que le bénévolat est aussi quand même une caractéristique des gens qui vivent sur ce territoire et que quand il y a un événement dans lequel ils se reconnaissent ou ils s'identifient, ils répondent présents. Enfin, on a déjà eu des gens qu'on n'a pas encore lancé d'appel à bénévoles, mais on a déjà des gens qui se sont proposés pour venir effectivement nous filer un coup de main. C'est vrai que pour nous, c'est un gros boulot évidemment d'organisation, de logistique, vraiment la demande du syndicat était qu'on prenne en charge la totalité finalement des aspects de la mise en œuvre de cette manifestation. Donc on est aussi bien sur effectivement la partie conceptualisation, programmation, que très concrètement quels outils on met en place pour que tout ça existe et fonctionne de manière professionnelle, puisque l'ambition c'est évidemment qu'on soit dans des conditions professionnelles. Bon, j'ai la chance d'avoir une équipe très motivée au niveau de l'association, un conseil d'administration qui est aussi très partie prenante, et on ne doute pas on va trouver effectivement les personnes nécessaires pour permettre de faire en sorte que ce soit une vraie réussite, parce que cette notion de réussite, je crois qu'elle est importante pour tout le monde, pas seulement pour le syndicat qui effectivement, comme l'a dit Vincent, met des moyens considérables qui pèsent forcément sur l'économie propre à chacun des producteurs. Mais au-delà de ça, je pense vraiment que Die et Liwa ont besoin d'événements forts et fédérateurs comme celui-là. Si cette renaissance ou la fête de la Clairette venait à disparaître, ce serait extrêmement dommageable pour l'image et le développement du pays. Le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que du coup, il y a une vraie responsabilité de la part de toutes les parties prenantes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a vraiment plus qu'intérêt à ce que ce soit une réussite. Un événement de cette ampleur, ça a vocation à être un levier de développement économique, culturel, social. Donc il faut que ça marche, quoi. Voilà. En résumé, on n'a pas trop le droit à l'erreur, je crois. Surtout si on veut qu'il puisse être pérenne et qu'à l'avenir, ça devienne un temps fort de la vie d'Ivoise.
Est-ce que d'aventure, la presse locale aurait-elle quelque chose à demander ?
Oui, moi je voulais revenir sur le choix de la date. La fête de la Clairette a été au départ calée sur le mois de septembre qui était lié à la récolte. Il y a une tentative d'essai qui a été faite sur le mois de juillet qui n'a pas forcément fonctionné. Pourquoi avoir choisi cette date du mois de mai ?
D'abord, on a renoncé au mois de septembre parce que, avec le réchauffement climatique, les vendanges sont de plus en plus tôt. Et en fait, début septembre, on n'est jamais sûr de ne pas être en pleine vendange. Et ça, c'est quand même un souci. Surtout avec, voilà, comme disait Harold, la lourdeur, enfin, pour employer pas forcément un mot positif, mais la complexité de l'organisation. Si nous, on est en pleine vendange, on va pas du tout pouvoir assurer, quoi. Et l'autre motivation, c'était d'ouvrir un peu la saison à Die et de proposer une date où nos visiteurs ne sont pas forcément nombreux. Donc on a pensé au printemps. Et à la fin du printemps, il y a la fête de la transhumance qui est aussi un des grands moments de Die. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas être en même temps qu'eux. Et de fil en aiguille, en cherchant un week-end un peu long, on est tombé sur les week-ends du début mai. Bon, cette année, on avait un peu le souci des élections au milieu qui ont voilà, très vite convergé sur une seule date possible. Bon, pour nous, producteurs, c'est bien parce que c'est vraiment juste avant le grand élan du printemps qui va...
Les pamperages.
Voilà, qui va complètement organiser l'année. Hein, donc, c'est pas mal comme date pour les viticulteurs, en tout cas.
Et puis, pour ce qui nous concerne, le mois de septembre était un peu exclu. Dans la mesure où on a juste le Festival Est-Ouest qui est aussi en septembre. Donc là, avoir les deux manifestations à mettre en œuvre à quelques semaines d'écart, c'était juste pas possible, quoi.
J'avais une autre question aussi sur le choix du concept. Où on a l'impression que le produit phare du Diwa va passer dans un second plan par rapport aux artistes. Est-ce que c'est qu'une impression ou il y a une réelle volonté justement de maintenir la Clairette de Die en avant de ce festival des Spéculeries?
Oui, juste une petite idée, quoi. C'est vrai que, bon, comme l'a dit Harold, et puis c'est une évidence qu'on fait ça pour faire connaître notre produit. C'est quand même l'idée de base, évidemment, d'une association de promotion, c'est de mettre en avant son produit. Mais on n'avait sincèrement pas envie de faire quelque chose qui puisse s'apparenter à une foire ou à un salon, enfin quelque chose qui soit de cet ordre-là, parce que justement on estime, enfin on est un certain nombre à penser ça, que le vin en particulier et la Clairette ont une autre vocation que de simplement un objet de consommation. Pour moi, c'est en tout cas très important que l'association du produit qui fait notre vie et qui nous nourrit, mais qui aussi nourrit tout notre imaginaire et probablement une partie de celui des habitants de ce pays-là, soit liée à des recherches artistiques et culturelles. Voilà. Alors si le ciment, c'est la joie et l'humour, ça paraît assez juste. Donc, c'était vraiment une volonté de notre part. Après, voilà, c'est dans l'organisation qu'il faut que tout le monde s'y retrouve. Mais...
En tout cas, nous, on est extrêmement vigilants à ce que, effectivement, la Clairette soit à chaque carrefour, je dirais, des propositions artistiques et culturelles. Après, effectivement, en termes de est-ce que les gens qui vont, le public de ce futur festival, va venir pour la Clairette ou va venir pour la programmation artistique ou parce que il y a une force d'attraction de l'événement, etc. Je dirais que en tout cas, sur une première édition, ça a relativement peu d'importance dans le sens où tous les éléments de programmation ont été pensés de telle sorte que l'association dont parlait Vincent en termes d'image, quoi, soit présente à chaque moment de la manifestation. Ce que j'espère, c'est que le public qui venait traditionnellement sur la fête de la Clairette aura toujours envie de venir. Et par ailleurs, on va réussir à faire intéresser des gens qui, jusqu'alors, ne seraient pas forcément allés à la fête de la Clairette, mais qui, parce que c'est le festival des Spiegleries, vont y venir. Et je crois que c'est dans ce brassage aussi des publics que la Clairette sera aussi promotionnée. Et dans les pré-papiers qui commencent un peu à sortir dans la presse nationale, ce qui est mis en avant, c'est en gros la Clairette fait son festival, quoi. Les Espiègleries, qui est sur le thème de l'humour musical. Donc il y a une espèce de renversement, mais qui, je pense pas, enfin faudra l'évaluer évidemment au moment du bilan. Bon, a priori, je ne pense pas, va desservir, va faire disparaître justement le produit Clairette. Et puis même sur le local, enfin moi je le vois bien en préparant la manifestation. dans la tête des gens, on a beau dire les Espiègleries, ça reste le festival de la Clairette ou la fête de la Clairette. Enfin, c'est le cas. Enfin, c'est ça. C'est toujours, d'une certaine manière, le festival de la Clairette, même s'il a pris une autre forme dans cette nouvelle version, quoi.
Je voulais poser une question par rapport, comme là vous disiez en début d'émission, que c'était la promotion de la Clairette aussi, mais aussi de faire connaître le pays du Tiwa. Et je voulais savoir si au niveau des producteurs locaux, ça se limitait d'accord à la Clairette, mais aussi j'ai vu sur le dossier qu'il y avait des producteurs de produits divers et variés. Est-ce que, comment vous avez contacté ces personnes-là qui vont devoir ou pouvoir exposer à ce festival ?
Ouais, c'est le syndicat pour le coup qui s'est plutôt... En fait, les producteurs de produits du terroir qui sont, enfin, vont être présents ont déjà participé, si j'ai bien compris, à la fête de la Clairette auparavant. Et donc ont une collaboration régulière avec le syndicat sur l'événement. C'est vrai que moi, c'est pas une partie dont je me suis occupé. C'est vraiment le syndicat qui a contacté justement ces différents producteurs. Selon quels critères, je ne saurais pas bien y répondre. L'idée, c'était qu'il y ait une diversité de produits susceptibles de s'associer avec la dégustation de la Clairette. Quoi. Voilà, c'est ça que j'ai compris. Donc, c'est pour ça qu'il y a des biscuits, des escargots, il y a du canard, il y a des olives, enfin bon, voilà, différentes choses qui sont susceptibles de se marier convenablement avec la Clairette.
Est-ce que cette liste de producteurs associés à cet événement est close, ou est-ce que justement, tu parlais de propositions tout à l'heure, il y a encore des gens qui pourraient être associés à cet événement?
C'est une bonne question, je ne voudrais pas m'avancer et dire de bêtises. Je pense qu'elle est relativement close, dans le sens où l'idée, c'était qu'il y ait une proportion de tiers un tiers, en fait, entre les producteurs de vin et de clairette, et puis les producteurs de produits du terroir. Le mieux, c'est de nous contacter au festival s'il y a des propositions qui vont dans ce sens, et puis on verra comment le faire. C'est vrai que, enfin, je sais pas si c'est le sous-texte de votre question, mais qui est de, est-ce que y en a qui vont, enfin, qui sont là privilégiés par rapport à d'autres, etc. Sur cet aspect-là, probablement, puisqu'il n'y a pas eu d'appel d'offres ou d'appel à candidature de lancer. Néanmoins, sur un certain nombre de prestations, donc dont on a, sur lesquelles on, enfin, on a besoin de solliciter pour la mise en œuvre du festival, en accord avec le syndicat, on a été quasi systématiquement dans une logique d'appel d'offres, entre guillemets, enfin, même si ça prenait pas évidemment la forme d'un appel d'offres au sens institutionnel du terme, mais en tout cas d'appel à candidature. Ça a été le cas pour la prestation graphisme, justement. Donc on a contacté plusieurs graphistes du Liwa et d'ailleurs aussi, parce que bon, l'idée, c'était d'avoir la meilleure proposition. Évidemment, on essaie toujours de faire travailler des gens qui vivent sur le territoire, mais il n'en demeure pas moins que voilà, il faut que ce soit la meilleure proposition qui soit retenue au service du projet. Donc là, en l'occurrence, c'est une graphiste de Diolfi qui a été choisie, donc on n'est pas tout à fait dans le territoire, mais pas loin quand même, qui s'appelle Lisa Renberg. Et puis, de la même chose sur la prestation restauration, qui va être, qui représente un gros budget. Là aussi, pareil, on a sollicité, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins 8 traiteurs différents. On avait proposé, pareil, un cahier des charges aux restaurateurs de Di pour justement essayer d'intégrer une prestation restauration dans le cadre des promenades découvertes du Diwa, c'est-à-dire que les gens auraient pu manger dans un restaurant de Di puis ensuite prendre le bus et aller faire leur promenade. Bon, il se trouve que cette proposition n'a pas trouvé un écho extrêmement fort auprès des restaurateurs de Di, donc du coup on a laissé tomber, mais on a quand même fait la démarche d'aller les solliciter. Pour la prestation impression, pareil, on a sollicité différents imprimeurs du territoire. Enfin voilà, vraiment le souci, c'était de mettre entre guillemets les gens en concurrence, et puis de justement pas être dans une logique de genre tout est plié, on a déjà réglé ça avec nos petits camarades avec lesquels on a déjà l'habitude de travailler, camarades ou pas d'ailleurs, mais enfin vraiment de laisser ça ouvert, parce que je sais en tout cas que c'est parfois un reproche qui peut être fait quand on est organisateur de manifestations, et souvent formulé.
Tout à l'heure, tu parlais du graphisme. Est-ce que l'affiche est déjà sortie? Alors, je sais qu'on est à la radio, mais...
Oui, l'affiche est déjà sortie. Oui, elle existe.
Alors, il y aura une présentation de cette affiche?
Une bonne question. On n'y a pas encore songé, mais on peut tout à fait imaginer un temps de présentation de cette affiche, bien sûr.
Alors justement, le compte à rebours est commencé, donc c'est le 11, 12, 13 mai. Donc je crois qu'on va peut-être un peu conclure cette interview, si vous avez rien d'autre à ajouter.
Si, moi je peux juste dire que, justement, parler de présentation de l'affiche, alors, il y a un site internet qui existe déjà, avec le visuel qu'il est possible de découvrir sur le site, et c'est www.les-espièglerie.com.
Donc moi, j'ai une chose à ajouter aussi, que pour se préparer à bien vivre le festival, on pouvait commencer à consommer les produits Clairette et Crémant, par exemple.
Est-ce
qu'on a le droit de dire ça à la radio?
Justement, je me posais la question, savoir si on avait le droit de dire qu'il fallait consommer de la Clairette à l'antenne, mais enfin bon.
Dans tous les cas, moi je vais bien être obligé d'en consommer plus que ce que je ne fais déjà depuis que je suis arrivé dans le Diwa, notamment parce que avec Fabien Lombard, donc qui est le président du syndicat de la Clairette, eh bien nous allons avoir l'honneur et le privilège d'être sacrés ensemble, enfin au même moment, lors de la prochaine, enfin du prochain chapitre de la confrérie de la Clairette, où nous allons donc tous les deux, si j'ai bien compris, devenir chevaliers de l'ordre de la confrérie de la Clairette. Et donc, de fait, jusqu'à la fin de mes jours, je serai obligé d'assurer la promotion de la Clairette et donc d'en boire.
Ambassadeur.
On peut imaginer pire investissement, enfin, je veux dire.
Oui, je préfère ça à d'autres confréries nettement moins réjouissantes que celle de la Clairette.
Pour les auditeurs qui nous auraient rejoints sur cette antenne, on refera un certain nombre d'émissions parce que effectivement, comme vous l'avez tous dit, c'est un événement qui fédère et donc qui va être important dans la vie d'Iwaze. Donc on fera vraisemblablement un certain nombre d'autres émissions, peut-être avec des intervenants, par exemple, je ne sais pas moi, Sand Severino, ça va être un peu difficile, mais peut-être.
Pas forcément, il y a des choses qui sont imaginables.
En tout cas, on préparera un certain nombre d'autres émissions pour rappeler et introduire ce gros événement qui, je le rappelle, s'appelle Les Espiègleries et qui aura lieu du 11 au 13 mai 2012.
Voilà. Et juste peut-être ajouter une chose, c'est que la billetterie pour les spectacles, donc Sand Severino, Le Quatuor, Fabienne Guillon, est déjà ouverte, donc il y a déjà des gens qui ont acheté leurs billets. Et que je rappelle juste, enfin voilà, parce que c'est vrai que c'est des têtes d'affiche, qu'on n'a pas une jauge au niveau de l'accueil du nombre de spectateurs si importante que ça. Enfin, on a en gros 600 places sous le chapiteau qui va donc accueillir ces spectacles. Donc ne traînez pas trop, parce que je pense qu'il n'y aura pas forcément des places disponibles jusqu'au 11, 12, 13 mai, en tout cas pour les têtes d'affiche.
Eh bien, je vous remercie d'être venu pour parler des espiègleries et je vous souhaite une bonne semaine.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.